Parce qu'en une journée, on ne peut célébrer toutes celles et tous ceux qui ont fait avancer les droits des femmes.
Parce qu'en une journée, on ne peut pas gagner l'égalité dans le travail, à l'Assemblée, dans le couple.
Parce qu'en une journée, on ne peut pas tout dire, tout dénoncer, de l'utilisation de l'image des femmes pour vendre des voitures aux violences sexistes et sexuelles.
Retrouvez-nous tous les troisièmes vendredis du mois dans notre émission « Il n'y a pas que le 8 mars » et en podcast sur Radio B.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans « Il n'y a pas que le 8 mars ». Bonjour Joël.
Bonjour.
Bonjour Natacha.
Bonjour Elodie.
Et bonjour à nos invités en studio.
Bonjour.
Alors, qui dit mois de mars, dit 8 mars, la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Saviez-vous que cette année, le 8 mars fête son 116e anniversaire? Et comme chaque année, le 8 mars, c'est le moment de faire le point sur les avancées et les luttes qui restent à mener. Dans le département, il s'est passé plein de choses pour le 8 mars. La manif du 7 mars d'abord. Ah oui, alors cette année, c'était le 7 mars. Un moment joyeux et déter pour occuper l'espace et dénoncer notamment les violences et discriminations faites aux femmes et aux minorités. De nombreuses organisations de l'Ain, des partis de gauche et des syndicats avaient appelé à défiler le samedi 7 mars à Bourg. Et parmi elles, le collectif féministe 01. Voici un extrait du discours lu par les militantes du collectif à l'issue de la manif.
Alors, le planning familial propose 5 mesures féministes prioritaires. Améliorer l'accès à la santé sexuelle de tous. Lutter contre les violences sexuelles et sexistes, soutenir les associations féministes, éduquer à la vie affective, relationnelle et sexuelle, et enfin repenser l'espace public pour qu'il soit inclusif et sûr. Notre féminisme ne sera jamais d'extrême droite, affirmait le collectif. Là où elle gouverne, l'extrême droite impose l'austérité budgétaire, elle démolit le droit du travail, elle attaque les droits des femmes et elle criminalise les personnes queer. Aujourd'hui, nous luttons en solidarité avec celles qui résistent face au gouvernement fasciste, que ce soit aux États-Unis, en Iran, en Palestine et en Ukraine. Notre féminisme est antifasciste, syndicats, partis politiques, associations et collectifs, vous qui œuvrez chaque jour pour l'émancipation, au nom des causes que nous défendons et des individus qui se mobilisent à nos côtés, il est de notre responsabilité immédiate de bâtir un front féministe, queer, antifasciste, unitaire et de masse.
Il n'y a pas que le 8 mars sur Radio B.
Pendant tout le mois de mars, on l'a dit, ça fourmille d'initiatives dans le département. On ne fera pas aujourd'hui un état des lieux exhaustif, ce serait trop long, mais on a choisi de mettre en lumière quelques actions, dont quelques-unes encore à venir.
Et moi, je me suis rendue à Ambérieu en Bugey parce que depuis quelques années, la MJC, le Centre Social, organise un temps fort autour du 8 mars. Ça s'appelle Non mes genres. Gaëlle Forêt et Alicia Lavaux sont toutes les deux animatrices, l'une pour la MJC, l'autre pour le Centre Social. On est revenu sur les origines de ce temps fort.
Non mes genres, c'est né quand même d'une réflexion entre nos deux structures, donc la MJC et le Centre Social. De relancer une journée festive autour du 8 mars, parce que à la MJC à l'époque on en faisait une, mais elle était vraiment orientée pour les femmes, et on avait envie quand même de la changer un peu et d'avoir une version un peu plus engagée. On a vu que sur le territoire il y avait pas de lieu ni d'échange autour de ce sujet-là, et aussi sur les sujets en plus large que le 8 mars. Par exemple, autour des droits des femmes, de la communauté LGBT, le sexisme. Et du coup, ça a été vraiment ouvrir une porte où il n'y avait pas grand-chose sur Ambérieu, quoi.
Ouais, je dirais que ça rejoint une volonté, puisqu'on sait qu'actuellement, en fait, quand on habite dans une grande ville, dans les métropoles, on peut facilement trouver des lieux où parler, des lieux où avoir des échanges de paroles, ou trouver des choses pour se sensibiliser, et qu'il y a des lieux moindres. Alors, on dirait, Ambérieu n'est pas rural. Mais on est entouré de communes qui sont rurales, où il y a une présence moindre de collectifs. Alors, ça commence à se développer. Il y a plein de collectifs qui se sont montés ou de festivals récemment, ce qui est bien. Et donc, il y a cette importance de ne pas laisser des territoires, entre autres, sans rien, sans espace pour poser les bonnes questions, parce que des fois, c'est juste l'échange qui manque. Et que l'échange, c'est ce qui permet aussi de mieux connaître son prochain, de pouvoir mieux lutter. Donc c'est dans une volonté aussi de faire que tous les territoires puissent bénéficier de ces échanges-là, et que ce ne soit pas juste centralisé du coup, au même endroit. Donc il y a une volonté quand même de décentraliser actuellement, quoi.
Chaque année, une thématique est choisie à partir d'images stéréotypées, genre la bonne ménagère, la sorcière, le couple. Pour ce mois de mars, le choix s'est arrêté sur le masculinisme. Alors pourquoi cette thématique ?
Alors déjà, il y a beaucoup de parents qui ont entendu parler de ça, parce qu'il y a la série adolescente qui est sortie sur Netflix qui a fait pas mal parler, et je pense qu'il y avait beaucoup de gens qui ne connaissaient pas ce terme-là. Et en regardant la série, ils se sont dit « Mais non, mais c'est pas possible, ça peut pas toucher des gens aussi jeunes. » Alors que, bah si, il y a aussi eu le fait que le gouvernement français a convoqué plusieurs influenceurs pour savoir du coup l'impact que ça peut avoir sur les jeunes. Donc il y a aussi ce moment-là où les gens ont pu entendre parler. Mais ça reste quand même quelque chose qui est mal connu. C'est-à-dire que les gens, par exemple, connaissent beaucoup le mot « incel » et pensent que c'est le masculinisme égal « incel », alors qu'incel, c'est une des branches et qu'il y a beaucoup, beaucoup de branches différentes. Donc on s'est dit « Mais en fait, faut faire connaître ça parce que c'est un sujet qui comporte beaucoup de sous-branches et qu'en connaissant, c'est comme ça qu'on lutte aussi. C'est comme ça qu'on permet aussi de lutter contre la désinformation qui peut être apportée par plusieurs figures masculinistes à nos adolescents. Après, je dis adolescents, mais il y a aussi les jeunes hommes. Hein, voilà. Et donc, c'est aussi ça permet de faire cette lutte contre les désinformations et d'outiller les gens. C'est surtout outiller les gens, puisque voilà, on ne fera pas des miracles à enlever tout le masculinisme sur Terre, mais au moins, si on permet d'outiller les profs, si on permet d'outiller les parents, si on permet d'outiller les jeunes ou toute autre personne, peut-être que ça permettra un recul sur ce qu'on voit. Et parce qu'à l'heure actuelle, c'est vu le nombre d'infos qu'on peut avoir à la minute, désormais, par les réseaux, par la télé, par plein de choses, le recul, parfois, on ne le prend pas. Et l'essentiel, c'est de se dire « Ah, mais peut-être qu'en fait, s'il faut que je reprenne le temps de prendre ce recul, est-ce que ce que me dit la personne sur mon écran est vrai ou pas ?» Voilà. Et du coup, ça permet aussi, le but final, de lutter contre la haine, que ce soit contre les femmes, que ce soit contre les minorités de genre ou contre les minorités sexuelles.
Je pense qu'on a choisi aussi cette thématique parce que ça a été perçu chez les jeunes dans les établissements scolaires. Donc on est quand même bien en lien avec le collège et les deux lycées d'Ambérieux. Et ça a vraiment été quelque chose de remarqué. Donc nous, on aime. Enfin, moi, je reviens sur la partie scolaire de Non-Mégenre, mais c'est vraiment ce qui nous permet d'aller sensibiliser le grand public, quoi.
Vous l'avez entendu, hein, Gaëlle et Alicia interviennent pendant le mois de mars dans différents établissements scolaires, de la primaire au lycée. L'objectif, vous l'avez compris, échanger avec les élèves autour d'outils spécifiques, hein, des dessins pour les plus petits, le violentomètre dès le collège, des débats à partir du lycée. Cette année, au lycée professionnel à Ambérieux, un travail a été fait autour des insultes. Petit retour de l'expérience.
On a quand même cette année testé une thématique sur les insultes. Parce que c'est souvent les femmes, les mères qui se font le plus insulter. Donc on a testé ça au lycée professionnel d'Ambérieux. Et on s'en est ressorti des choses assez marquées, quoi. Enfin, ça fait un peu peur quand même. On reste sur des discours de domination de l'homme sur la femme. Donc on a essayé de déconstruire tout ça avec eux. Mais bon, c'est pas en une heure et demie qu'on va faire changer leur façon de penser. Mais au moins, on teste et on ressort de ces animations en se disant que oui, il y a du travail et que c'est essentiel qu'on aille dans les collèges et les lycées et les écoles pour travailler sur tous les stéréotypes de genre qui sont vraiment très collés. Et je pense que le masculinisme et les réseaux sociaux, ça rigidifie les stéréotypes et ça enferme vraiment les personnes dans ça, quoi.
Le masculinisme, c'est la porte d'entrée cette année pour travailler autour de l'égalité femmes-hommes, avec les garçons notamment.
Le masculinisme, ce n'est pas juste un danger pour les femmes, ça peut être un danger pour les hommes, puisqu'il y a quand même aussi, par exemple, si on prend la communauté incel, il y a beaucoup le fait de ne pas aimer son corps, de ne pas se sentir OK avec les critères de beauté instaurés, et du coup, arriver presque à une haine de soi. Donc, c'est aussi une manière d'aider ces jeunes hommes à être dans quelque chose qui est sain pour eux, quoi. Enfin, moi, je ne pense pas que... Voilà, il faut partir de l'idée que tous les jeunes hommes seront... perdu. Non, justement, il faut essayer de multiplier ce genre d'actions pour que les paroles perdurent et qu'on puisse créer des lieux où ils se sentent des fois de poser des questions et que les intervenants, que ce soit les profs, que ce soit nous, que ce soit toutes les associations formidables comme les centres de planification sexuelle, puissent y répondre, quoi, pour qu'ils puissent grandir. En fait, pour avoir un futur sain pour eux, c'est juste question d'avoir un futur sain pour eux, quoi. Voilà.
Et alors, le reste de l'année, au-delà du temps fort, comment on travaille sur l'égalité femmes-hommes ? Pour le centre social, Alicia nous explique.
Pour le centre social, en tout cas, les échanges se passent même pas forcément lors d'animations. C'est juste que comme, enfin, on a plusieurs animations, mais des fois qui n'ont pas de rapport avec spécifique sur, le sexisme, l'LGBTphobie. Mais les gens, ils savent qu'ils sont dans des structures où ils peuvent poser des questions, où c'est un endroit où ils peuvent les poser et où ils vont avoir quelqu'un qui va essayer d'y répondre le mieux. Hein. Parce que bon, on n'est pas parfaite, on apprend toute la vie. Et moi, je préfère qu'ils posent ces questions là, dans nos structures, et qu'on y réponde, qu'on prenne le temps d'y répondre, que les poser à une personne random dans la rue et peut-être, dans ce moment-là, rentrer peut-être dans un cadre d'harcèlement. Donc, je dirais, nous, pour le centre social, c'est à tout moment, ils savent qu'ils peuvent venir en parler. On a des actions avec les jeunes aussi, dans le cadre de l'accompagnement à la scolarité, où parfois, juste, on s'assoit autour d'une table et on parle. Et ils savent que, voilà, on va y répondre sans être dans le jugement, sans être dans la punition, et de prendre le temps d'expliquer, quoi. Pour nous, c'est plus comme ça.
Du côté de la MJC, avec Gaëlle.
Nous, ça va être plutôt dans le cadre associatif, de faire attention, par exemple, sur une manifestation, le poste de bénévole qui est pris par une femme, un homme. On va essayer vraiment d'avoir, même si on a quand même majoritairement des femmes qui vont prendre les petites missions et les hommes qui vont prendre les missions de manutention, mais on essaie quand même d'avoir un regard sur ça, de le questionner, de proposer, et que ça reste pas comme ça. Donc vraiment d'être dans l'observation de ça.
On entend l'engagement des deux animatrices et leur investissement dans le travail, mais aussi dans le travail personnel pour se former.
Dans ma vie personnelle, je lis beaucoup, 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 beaucoup. Je suis allée à beaucoup de temps, comme par exemple le mouvement HF Auvergne-Rhône-Alpes qui organise des temps de rencontre avec des acteurs. Enfin, je vais beaucoup à ce genre d'événements dans ma vie perso. Et moi, ça m'aide à avoir beaucoup d'outils comme ça. J'ai un mélange de formations que mon travail me propose, mais aussi dans mon temps perso où je mets du temps et de l'investissement. Parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, quoi. C'est dans mon ADN, quoi, je dirais.
Oui, nous, du côté de la MJC, on a un réseau des MJC qui s'appelle R2AS, qui nous permet d'être tous en lien et ils proposent des formations sur les discriminations, sur les violences sexistes et sexuelles. Il y a même aussi, et en fait, c'est sous forme de malles pédagogiques, donc après, on peut les louer. Il y en a une malle, par exemple, qui s'appelle Qu'est-ce ton sexe ? Et c'est tout un jeu un peu de loi pour parler de la relation affective et amoureuse des jeunes. C'est vraiment des temps aussi entre pairs MJC qui permet d'échanger sur dans nos maisons, qu'est-ce qui se passe, comment on répond à ces problématiques. C'est vrai que c'est important que nos réseaux aussi prennent à cœur ces questions-là pour qu'on puisse avoir les outils. C'est vrai que ça peut ne pas être évident de répondre à toutes les questions des jeunes sans avoir un peu de bagage derrière. On peut vite se sentir dépassé, quoi. Voilà.
Comme quoi, parfois, s'il se passe des choses dans ces structures qui organisent des actions autour du 8 mars, c'est aussi parce qu'en fait, il y a des équipes investies. D'ailleurs, à la fin de l'interview, Gaëlle et Alicia m'ont rappelé que leurs lieux sont ouverts à toutes les participations. Donc, si vous êtes du côté d'Ambérieu-en-Bugey, il ne faut pas hésiter à aller les rencontrer à la MJC, au centre social, pour donner vos idées, proposer des sujets, des ateliers à construire. Elles sont hyper ouvertes et vous accueilleront avec plaisir. Le temps fort, il est terminé. Mais je vous rappelle que ça se passait du 2 au 14 mars avec plein d'actions, donc des expositions, des ateliers en milieu scolaire, des rencontres autour de la littérature jeunesse par exemple, une scène ouverte et une conférence gesticulée autour des masculinités et du masculinisme dont on parlera en juin. En tout cas, merci à Alicia pour le centre social Le Lavoir à Ambérieu-en-Bugey et à Gaëlle Forêt pour la MJC Louise Michel. Un signe hein, quand même.
Prête-moi ta couronne, je veux tous tes bijoux. Prête-moi ton courage et les colliers de larmes à ton cou. Prête-moi ton audace, j'ai le cœur à genoux. Trouver l'interrupteur, éteindre la pudeur pour libérer l'alarme. Moi j'ai jamais su dire trop, ses secrets sous ma peau. Pourtant je ne sais pas mentir. Drama queen, drama queen. On gardera nos épines car toutes nos héroïnes sont comme ça. Drama queen. Tu rends les armes sans jamais te faire prier pour une démo de larmes. Donne-moi ta liberté sans jouer la comédie. Y'a pas de détention pour délit d'émotion, mais ça toi tu le sais. Moi j'ai jamais su dire trop, j'ai jamais su faire sortir tous ces secrets sous ma peau. Pourtant je ne sais pas mentir.
Le titre « Drama Queen » par Melba.
Et bonjour Célia Bagneux-Chedefaux et Laura Olivier. Merci d'être en studio avec nous aujourd'hui. Alors vous travaillez toutes deux à l'écrin tiers-lieu, situé sur la commune de Brest-Vallon. Mais d'abord, c'est quoi un tiers-lieu?
Bonjour. Un tiers-lieu, alors il y a différentes définitions, mais en gros c'est... Ça vient d'un lieu qui est tiers ou d'un lieu qui a au moins trois activités. C'est les deux un peu sources de définition. Dans notre cas, nous, c'est un lieu qui appartient donc à la commune et qui est en gestion partagée entre la mairie et des collectifs d'habitants. Ça fait office de maison des associations, mais ça fait aussi office de dynamique un peu collective pour tout ce qui est sujet autour de la transition sur la commune, donc transition écologique, mais aussi... sur des sujets voilà, culturels, sociaux, un peu tous les sujets de société. Et on essaye, donc il y a différents outils dans le tiers-lieu et différents collectifs d'habitants, comme j'ai dit, et on essaye voilà, de s'emparer un peu de tous ces outils-là avec les habitants pour parler de différents sujets, différentes thématiques.
Et alors, parmi les sujets, pendant le mois de mars à l'écrin, plusieurs actions pour l'égalité sont organisées. Vous nous racontez un peu ce qui s'est passé?
On a eu un premier temps fort quand moi j'ai pris mon poste, parce que je viens juste d'arriver, avec notamment un concert qui a été organisé. Et notre gros temps fort, ça va être ce samedi 21, où on a plusieurs activités qui sont proposées. On va avoir un atelier d'écriture, on va avoir le service Microfolie qui propose un atelier pour reprendre un petit peu toutes les artistes féminines qui ont marqué l'histoire de l'art et qui sont souvent un petit peu reliées au second plan dans les musées. On va avoir plusieurs jeux aussi qui sont proposés, Mémorie, qui est toujours en lien avec cette question du féminisme. Et puis, on a un atelier aussi qui est proposé par un artiste, Yannick Plaisance, qui va faire une initiation autour du pastel, et lui qui nous propose en ce moment une exposition autour des femmes remarquables. Et le soir, on a un temps fort proposé par l'association...
La discothèque féministe.
Voilà, exactement. Pour finir un petit peu cette journée avec un temps plus festif.
C'est la première fois que vous organisez un temps fort autour de l'égalité homme-femme à l'écran, ou ça, c'est quelque chose qui revient chaque année?
On essaye de le faire. Alors pour le coup, il n'y a pas que le 8 mars, mais nous, c'est vrai que du coup, vu qu'on traite de sujets très divers, on met des thématiques un peu chaque mois, et donc le mois de mars s'impose la thématique sur l'égalité. On l'avait fait un petit peu l'année dernière, voilà, on avait commencé à mettre une première pièce, mais c'était pas aussi construit avec autant de partenaires. Là, ce mois-ci, on a voulu vraiment mettre en avant, alors à part Yannick, mais qui a une expo sur les femmes rebelles, Louise Michel d'ailleurs. Et on essaye de mettre en avant, ce mois-ci en particulier, des artistes femmes et des actrices du territoire féminin. Et là, en l'occurrence, du coup, la discothèque était venue l'année dernière plus sous forme de stand. Là, ils font vraiment une conférence pour réhabiliter les femmes dans la musique.
C'est quoi la discothèque féministe?
C'est une association recense et analyse la place des femmes dans la musique pour réhabiliter toutes les musiciennes, compositrices qui ont été... un peu oubliée, parce qu'on voit qu'encore aujourd'hui, dans la culture, que ce soit au niveau de la musique ou au niveau même des musées classiques, la visibilité des femmes qui est encore largement inférieure. Au Louvre, je crois, dans les chiffres qu'on a un peu trouvés en préparant l'événement, au Louvre, il y a moins d'1% des tableaux qui sont des tableaux faits par des artistes féminines. Donc même s'il y a des noms qui sont très connus, comme Frida Kahlo, ou c'est encore une ou deux femmes dans une ribambelle d'hommes.
Et alors, est-ce que l'égalité à l'écran, c'est toute l'année? Est-ce que c'est une préoccupation, un enjeu que vous portez au quotidien? Et puis si oui, comment?
Oui, ça fait partie des valeurs qui sont importantes pour nous dans la gestion du tiers-lieu. C'est pas une thématique qu'on porte comme on a un collectif dédié à la culture qui fait des expos tous les mois, on a un collectif plutôt dédié à la transition écologique, on a un truc d'empreinte d'outils, etc. Par contre, on essaye que dans chacune des réunions du collectif, par exemple, d'empreinte d'outils où il y a pas mal de bénévoles hommes, on essaye de faire parler les femmes aussi, de laisser la place aussi aux femmes. On utilise l'écriture inclusive dans nos programmes, etc. Ça cristallise rien que ça. En fait, on voit que ça crée des crispations. Alors que il y a la moitié des habitantes de Brest-Vallon qui sont des femmes, très probablement. Donc, on utilise l'écriture inclusive dans nos programmes et rien que ça, en fait, ça nous permet de mettre une petite pièce dans la machine et d'avoir ce genre de sujet avec les gens.
Comme l'exemple qu'on a écouté auparavant de la MJC et du centre social d'Ambérieu, est-ce que vous avez des temps justement de formation pour parler de ça, analyser un peu vos pratiques, vous former justement à accompagner les habitants, habitantes sur ces questions, ou ça vient de volonté personnelle que vous portez?
Je pense que c'est plus des volontés personnelles, et après j'ai l'impression qu'il y a possibilité d'amener ça sur notre vie professionnelle et comment on va pouvoir le faire après, ça c'est une question, mais
on est soutenu là-dedans dans les valeurs qu'on porte politiquement dans le tiers-lieu. Ça fait partie des sujets dont on doit s'emparer dans ce qu'on appelle les sujets de transition. Ça passe aussi par l'égalité des genres. Mais effectivement, c'est une appétence personnelle et des formations qu'on a pu avoir dans nos vies personnelles ou dans les collectifs auxquels on appartient.
Et là, vous avez des retours sur ce que vous proposez samedi. Les habitants, habitantes, ils suivent. Vous avez l'impression que ça les motive, qu'ils sentent qu'il y a un engouement autour de ce que vous proposez?
Moi, j'ai du mal à me rendre compte encore.
Ouais, au niveau de la participation, c'est très inégal. Et c'est pas nécessairement que sur les habitants de la commune, qu'on a des gens, des fois, qui viennent même d'un peu loin pour nos événements, et d'autres de la commune qui s'y intéressent toujours pas. Donc on espère que samedi, les gens seront au rendez-vous. Mais
vous pourrez nous redire quelle commune ça concerne?
Donc c'est Brest-Vallon, c'est Étré et Crasse.
Rassure et sauce.
D'accord. Ok.
Eh bien, merci beaucoup Laura, merci beaucoup Célia. Rendez-vous donc ce samedi à 21h à partir de quelle heure?
C'est de 9h le matin, on a un atelier d'écriture, et après de 14h à 19h.
D'accord. Eh bien, rendez-vous donc le samedi 21 mars à partir du matin à l'écran pour célébrer les femmes oubliées de l'histoire et des sciences. Merci.
Merci beaucoup.
Et à Bourg-en-Bresse, il y a aussi des choses qui ont été portées par l'association Altec.
Oui, Altec, c'est une association qui est hébergée à la Maison de la Culture et de la Citoyenneté de Bourg-en-Bresse. C'est un centre de culture scientifique, technique, industrielle de l'Ain qui se définit comme véritable colporteur de la culture scientifique, parce qu'ils vont de village en village aussi. Ils ne restent pas que à Surbourg. Un programme d'ateliers, de conférences très riche tout au long de l'année. Et il y a peu, une exposition autour de cette maladie qui est encore assez peu connue, puis qui touche une femme sur 10 quand même, c'est l'endométriose. C'était une exposition qui a été conçue par la Cité des Sciences, qui s'est tenue pendant plus d'un mois, en début d'année 2026, sur les murs de la MCC, donc de la Maison de la Culture et de la Citoyenneté. Et parallèlement à ça, il y a eu une rencontre avec le Centre de Santé Sexuelle de l'Ain et l'association Endo-France lors d'une soirée où il y a pu avoir discussion.
Et puis, il était aussi question des femmes et des sciences lors de la conférence proposée à nouveau par Altec, à laquelle tu es allée, Natacha.
Oui, la conférence, elle avait pour titre « La science au féminin, briser les barrières, ouvrir les horizons ». Donc, on retrouve des enjeux que vous évoquiez. Le public a d'abord été mis au défi de tester ses connaissances grâce à un caout, le truc très à la mode, sur les réalités, les stéréotypes entourant l'accès des femmes aux carrières scientifiques. Et cela a permis d'aborder les contraintes concrètes qui pèsent sur les carrières scientifiques des hommes, comme par exemple... des femmes, pardon. Ah oui, parce que les hommes, non, ça va.
Ça va.
Donc, cela a permis d'aborder, je disais, donc, les contraintes qui pèsent sur les carrières scientifiques des femmes, l'hostilité de leur homologue familial. Masculin, par exemple, les mises à l'écart, l'invisibilisation de leurs travaux. On parle souvent de l'effet Mathilda, par exemple. La menace du stéréotype aussi qui affecte leur performance, la confiance en soi, les phénomènes de censure, les fuites des talents, etc., etc. Et Altec a ensuite donné la parole à deux enseignantes-chercheuses, professeures à l'université, Nadia Oulalal, qui est biologiste, et Claire Delfos, géographe. Elles ont généreusement partagé leur expérience personnelle, les défis rencontrés sur leur parcours et leurs engagements. Et c'était des témoignages très riches qui alors autorisent, je trouve. Je retiens notamment de cette soirée l'intervention d'une jeune femme, peut-être étudiante, je ne sais pas, je ne la connaissais pas, mais à la fin de la conférence, qui a souligné combien leur témoignage permettait de se sentir autorisé à penser une carrière scientifique, même en suivant des chemins de traverse pour les femmes.
Oui, en fait, on a noté que beaucoup des actions qui sont menées autour du 8 mars ont ce rôle un peu de prévention, de sensibilisation, et c'est le cas notamment dans les établissements scolaires.
Alors, il n'y a pas que le 8 mars, oui, au collège d'Artemare. L'égalité filles-garçons, ça se travaille et ça se vit toute l'année. Nous étions avec Radio B dans cet établissement pendant une semaine, au mois de mars, pour préparer une émission en direct avec les jeunes. 4 jours avec des jeunes donc, qui avaient 12, 13 ans, en 5e, des ambassadeurs de ce qui se passe dans cette petite ville du Val-Romais. C'est une émission imaginée, réalisée, animée par les élèves. On les retrouve.
Il n'y a pas que le 8 mars.
On a tous besoin d'égalité filles-garçons toute l'année.
Nous devons tous nous respecter, même si on est fille ou garçon. Dans les jeux, autour d'une table de ping-pong, sous le préau et au CDI.
Nous, filles ou garçons, nous sommes tous égaux.
Peu importe notre pratique sportive et nos passions, on n'est pas si différents.
Bonne écoute.
Nous sommes en direct du collège du Val-Romais à Artemare.
Et Artemare, c'est dans le département de l'Ain, à 81 km de Bourg-en-Bresse et à 45 minutes de Chambéry.
Nous sommes dans un collège rural qui accueille environ 300 élèves.
C'est un beau collège, nous nous connaissons presque tous. Les classes sont lumineuses et agréables.
Nous sommes des élèves de la classe des 5e A.
Cette classe est composée de 25 élèves, 11 garçons et 14 filles. 9 élèves participent à la classe orchestre, 10 élèves au latin, 11 germanistes et 14 élèves apprennent l'italien.
Je suis Mathis.
Et moi, je m'appelle Thalys.
Dans notre classe de 5e A, il y a aussi...
Maëlia,
Célestine,
Livia,
Kevin,
Jules,
Juliane,
Byron,
Noam,
Ryan,
Curtis,
Noah,
Roxane,
Victoria,
Candice,
Romane,
Julia,
Justine,
Romane,
Naomi,
Chloé,
Mathis,
Marjane,
Timothy,
Thomas.
Bonjour Romane et Naomi.
Bonjour.
Bonjour Timothy et Noah.
Bonjour.
Et bonjour Madame Gatron.
Bonjour.
Vous êtes avec nous pour parler du label égalité.
C'est quoi le label égalité filles-garçons au collège ?
Alors, le label, c'est une certification officielle qui est décernée par donc, le ministère de l'Éducation nationale et qui est là pour reconnaître un établissement dans son engagement sur un dispositif ou sur certaines valeurs éducatives.
nous sommes au label numéro 3. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Eh bien, ça veut dire que non seulement donc on a déjà atteint le niveau 1, le niveau 2, et le niveau 3, c'est un niveau qui est intitulé expertise, c'est-à-dire que non seulement on a mis en place des actions, on a engagé un projet d'établissement qui met en valeur et qui met en place des actions pour lutter contre les stéréotypes. Et c'est pas simplement des actions, c'est aussi notre projet pédagogique qui est en lien avec la question de l'égalité filles-garçons.
Merci Madame Gatron. Je rappelle que vous êtes la principale du collège du Val-Romé.
Eh bien, écoutez, je vous remercie et je vous félicite pour ce beau travail.
On est fiers d'avoir ce label. Grâce à lui, nous sommes tous sensibilisés à l'égalité.
Nous avons plus souvent des interventions et des projets. C'est top.
Super. Et le podcast complet de l'émission est en ligne dans la rubrique Il n'y a pas que le 8 mars.
Bien sûr. Et jeudi 12 mars dernier, j'ai eu la chance d'assister au spectacle organisé en marge du stage d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle pour des personnels enseignants porté par le syndicat Sud Éducation à Bourg. C'était à la salle Olympe de Gouges et c'était vraiment bien. Le spectacle s'appelle « Plaisir d'offrir ». Il a été créé par Émilie Bonneau. Il s'agit d'une sorte de performance solo. Un solo avec une chaise, nous dit-elle. Voilà. Donc ça donne le ton. C'est très drôle. C'est à la fois du clown, de la danse, un autoportrait décalé, une mise à nu et une réflexion sur ce qui fait un spectacle. Ce que c'est que d'être spectateur, spectatrice. À ce titre, tout à l'heure, j'ai dit assister au spectacle, mais j'aurais pu dire participer au spectacle. Voilà, alors il y a le corps d'Émilie Bonneau au centre. C'est un spectacle aussi punk, queer, enfin bref, je vais pas en dire beaucoup plus parce que ça pourrait gâcher le plaisir. Et si vous avez l'occasion de la voir, allez-y, franchement, plaisir d'offrir, donc le titre du spectacle. Émilie Bonneau, ça s'écrit B-O-2-N-O. Nous mettrons le lien vers son site, sa page Instagram sur le site de l'émission. Et pour celles et ceux qui nous écoutent du côté de Francheville, dans le 69, elle sera présente à la soirée Music Queen le samedi 18 avril à la salle de spectacle des Grandes Voisines.
Et puis alors, les bulles du mois de mars. Le mois de mars, cette année, a été un mois de campagne électorale. Hein, ça a échappé absolument à personne. Nous avons reçu différentes annonces. Deux viennent de Saint-Philippe à La Réunion. Le 1er mars, Annie Paillet, en pleine campagne électorale, souhaite bonne fête à toutes les mamies sur un joli carton rose. Alors, je cite, en ce jour particulier, je souhaite adresser une pensée affectueuse à toutes celles qui, par leur présence, leur patience, leur sagesse, sont piliers silencieux de nos familles. Nos mamies sont la mémoire vivante de notre commune, celles qui ont vu Saint-Philippe grandir, évoluer, traverser les épreuves et les joies. Merci pour ce que vous transmettez, merci pour ce que vous représentez, merci pour votre amour inconditionnel, avec respect et reconnaissance. C'est évident. J'arrête là, maintenant c'est moi qui parle. C'est évident. Hein. Le fait d'avoir des enfants qui eux-mêmes ont fait des enfants classe les femmes dans ce grand groupe des mamies. Des femmes silencieuses qui voient passer devant elles les transformations de la ville. Les femmes de Saint-Philippe ne sont sûrement pas actives dans la ville. Elles ne sont sûrement pas décideuses, pas chefs d'entreprise, pas chauffeuses de bus. Elles sont bien gentilles, les mamies. Caressées dans le sens du poil, flattées sur qu'elles seront pour qui voter, peut-être. Dans la même ville de Saint-Philippe, le comité femmes fait paraître une invitation. Olivier Rivière, tête de liste, en photo, les mains dans les poches, tout sourire. Et l'indication, c'est « Le comité vous invite, mesdames, à partager une journée qui vous sera dédiée. Composition florale, massage bien-être, pose de vernis, kudurofite, karaoké. » Alors, kudurofite, alors j'ai été voir parce que je ne savais pas.
C'est
alors, c'est un ensemble en même temps sportif, en même temps de détente, alors en même temps de la danse, mais en même temps du...
Du combat.
Voilà, du combat et du... tout pour le cardio. On en oublierait que le 8 mars est une journée de revendication mettant en avant la lutte pour les droits des femmes et notamment pour la fin des inégalités femmes-hommes. Proposer des activités sportives, de détente et de loisirs, ouais, c'est super pour un maire ou pour un futur maire, mais les 364 autres jours de l'année. Pas besoin d'aller chercher bien loin, il n'y a pas qu'à La Réunion.
Effectivement, pas besoin d'aller jusqu'à Saint-Philippe, des actions un peu ratées, en tout cas des intitulés un peu ratés, on a pu en trouver sur des programmes d'une commune alentour, mais on ne va pas la nommer par gentillesse. Voilà, une commune alentour qui a évoqué le mois de la femme, des actions autour du mois de la femme. Donc, évidemment... Il n'y a pas qu'une seule femme. Hein. Voilà.
Moi, de mon côté, deux publications sur les réseaux sociaux avec des chiennes, ouf, ouf, pour mettre en lumière le travail féminin. La publication de la Police nationale de la Seine-Maritime et puis celle d'une association de soutien aux victimes locales avec la mise en avant des compétences de sa chienne d'assistance juridique. On espère un petit peu mieux pour l'année prochaine.
Salam tout le monde.
Salam ma fille.
Ça va Yuma?
Ça va.
Fatima, t'as les mains dégueulasses. On travaille depuis tout à l'heure, tu sers à rien.
Tu vas faire comment plus tard avec ton mari? Tu ne seras pas là.
Quel mari qui va vouloir l'épouser? Elle a zéro féminité, regarde.
Comme ça. Lui alors? Don't feel like me now. Going way down south. Won't try to explain now. I'm by myself.
Comment t'as su que tu préférais les femmes?
Je suis tombée amoureuse en fait d'une de mes copines au lycée. Banal. Toi, tu sais pas encore.
En fait, j'ai une très bonne amie à moi qui est musulmane. Elle s'est rendue compte qu'elle était attirée par les femmes.
L'homosexualité est quelque chose de prohibé. L'instinct de l'homme, c'est d'être attiré par les femmes. Et l'instinct des femmes, c'est d'être attiré par les hommes.
Pédale, votre copine la lesbienne là.
J'adore, t'es tout petit nude.
C'est quoi un cœur brisé, c'est quoi? Moi je te le recoue ton cœur moi. Je sais ce que c'est de pas s'assumer, pas être bien dans sa peau, tout ça, mais à un moment faut vivre. Hein.
L'émancipation est une question fondamentale. C'est une demande d'être reconnu comme égaux parmi les égaux.
Et on termine en beauté avec un coup de cœur suite à la cérémonie des Césars qui a récompensé l'actrice Nadia Meliti pour son rôle dans le film La Petite Dernière, réalisé par Afsia Herzi. Nadia Meliti, elle était déjà prix d'interprétation féminine au Festival de Cannes. Donc l'histoire d'une jeune femme musulmane qui découvre son homosexualité et qui se questionne sur sa foi. Un film tout en finesse avec effectivement une interprète qui crève l'écran. Je crois qu'il n'y a pas une image où elle apparaît pas à l'écran. Et moi, j'ai été subjuguée par son empreinte. Elle est magnifiée par la caméra d'Efsia Herzi. C'est une très, très belle histoire. Donc j'en profite pour vous conseiller ce film et vous inviter au passage à aller regarder aussi dans la filmographie de cette réalisatrice comédienne Afsia Herzi, qui est vraiment précieuse dans le cinéma français.
Et puis on peut continuer par un livre qui est sorti fin 2025 aux éditions du Campus Ouvert. L'autrice Scarlett Wilson-Courvisier publie « Le matrimoine, ce que nous ont transmis les pionnières de l'ESS ». L'autrice, alors donc, c'est une militante de longue date de l'économie sociale et solidaire, passée entre 1981 et 2008 dans des cabinets ministériels et par la délégation interministérielle en charge de l'économie sociale, puis de l'économie sociale et solidaire. Alors bon, cette économie ESS, ça rassemble les entreprises qui cherchent à concilier solidarité, performance économique et unité sociale. C'est un secteur qui compte 200 000 entreprises et structures et plus de 2 millions de salariés en 2021. À noter quand même que dans ce secteur qui porte des valeurs d'émancipation et d'égalité, il y a 67% de femmes salariées et 30 à 35 femmes qui sont dirigeantes et élues. Donc même dans ce secteur, du travail encore à faire. Bon, alors ce livre, 4 ans d'écriture. C'est un livre qui présente la vie de 99 femmes qui ont été repérées entre 1930 et 1999, qui toutes, par leur action, leur écrit, leur lutte, ont contribué à l'émergence de l'économie sociale et solidaire dans tous les secteurs et sous toutes ses formes, que ce soit des associations, des coopératives, des mutuelles. Et parmi ces 99 femmes, quelques noms que je ne connaissais pas. Alors, Eugénie Niboyet, journaliste. Et puis après, il y a des communardes aussi. Nathalie Lemel participe à la création de la ménagère et de coopératives d'alimentation. Victoire Tiner, qui travaille à la laïcisation des écoles, à cette époque, fin du 19e important, parce que c'était quand même tenu beaucoup par l'Église. Marie Huot, à qui l'on doit la première conférence publique en 1892 en faveur d'une limitation des naissances et qui défend le droit à l'avortement, qui considère la maternité comme un choix conscient et qui rejette l'idée de faire des enfants comme de futurs soldats anonymes.
Tiens,
ça n'a pas marché hein, pour quelques années après, mais en tout cas, bon, plus proche, Marie-Andrée Lagroix-Veil-Allé, qui est fondatrice du mouvement pour le planning familial. Donc, plein de femmes que je ne connais pas, et c'est vachement intéressant, et je trouve que c'est revigorant, tous ces exemples de militantisme, ça donne des idées. On peut faire un parallèle vraiment avec les initiatives de ces 99 femmes qui sont présentées et les initiatives des femmes d'aujourd'hui. Et je pense à toutes celles qui vivent dans le monde, là où il y a un minimum vital qui manque, hein, que ce soit ici en France, au niveau de la pauvreté dans laquelle sont plongées certaines femmes, et dans les pays où qui sont obligées de survivre. En disant minimum vital, évidemment, je pense à celles qui sont aussi privées de liberté, contraintes dans une vie étriquée. Il y a les femmes, on a déjà parlé, qui résistent, qui entreprennent et qui organisent des écoles secrètement, par exemple. Ce livre, Matrimoine, ce que nous ont transmis les pionnières de l'ESS, nous fait découvrir des femmes inspirantes, combatives, et pour nous donner dynamisme et enthousiasme, indication et posologie, déposer le livre sur la table de chevet, lire à petite dose, une découverte par jour, laisser infuser, garder en mémoire, utiliser sans modération.
On prend. Merci pour ces recommandations. Merci Natacha et Joël.
Merci.
Merci à Jimmy à la technique. On se retrouve le mois prochain pour une émission autour de la Maison des Femmes, le film et le dispositif à Bourg-en-Bresse. À bientôt.
Spécialement dédicacée aux routières, aux câblières, infirmières, jardinières, pâtissières, tapissières, biscoutières, joaillières, téléphonistes et machinistes, aux fleuristes, aux choristes, aux urbanistes, aux ébénistes, aux pépiniéristes, aux satiristes, aux coloristes, aux courriéristes, aux chimistes, aux hygiénistes, aux trompettistes, aux trapézistes. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler. Dédicacé aux géologues, psychologues, sociologues, sinologues, philologues, éthologues, graphologues, archéologues, paléologues, marinières, infirmières, costumière, couturière, façonnière, ou gantière, ou lingère, ou ménagère, ou guichetière, ou secrétaire, ou romancière, ou aventurière, vas-y, continue la liste. Téléphoniste, machiniste, économiste, violoniste, étalagiste, paysagiste, métallurgiste, aquarelliste, carriériste, archiviste, journaliste et modéliste. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler. Dédicacée aux serveuses, aux chroniqueuses, aux visiteuses, aux chercheuses, aux enquêteuses, aux ajusteuses, aux acheteuses, aux chanteuses, aux animatrice, opératrice, réalisatrice, productrice, éducatrice, monitrice, compositrice, cantatrice, galérienne, magicienne, aux historiennes, bohémiennes, grammairiennes, physiciennes, techniciennes, aux gardiennes, électriciennes, mécaniciennes, comédiennes, pharmaciennes, musiciennes, pharmaciennes, à toutes celles saisonnières, sévrières ou journalières, qui pour un travail égal, à celui qui a fait le mal, la qualification égale, touche-moi, c'est pas normal. On parle d'égalité, on parle de parité, mais